Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Il est 20h à Abidjan, 22h à Paris, l'heure de votre journal en français facile.
Adrien Delgrange.
Nous sommes le 8 juillet au sommaire de cette édition. L'annonce de la mort du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly s'est éteint subitement à Abidjan cet après-midi à l'âge de 61 ans. Dans ce journal également, le gouvernement britannique qui présente un plan de relance de 30 milliards de livres sterling pour son pays. Vous entendrez par ailleurs le pape François qui dénonce l'enfer des camps de détention pour migrants en Libye. Et puis enfin, dans l'actualité française, les premiers pas de Jean Castex dans l'arène politique à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Le Premier ministre annonce rouvrir le débat sur la réforme des retraites en France.
Les journaux en français facile.
En français facile.
La Côte d'Ivoire pour commencer ce journal avec le décès ce mercredi après-midi du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il y a un petit peu plus de 2 heures maintenant, le secrétaire à la présidence Patrick Hachi annonce sur les antennes de la RTI son décès en lisant ce message du président Alassane Ouattara rendant hommage au défunt.
Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly qui a été pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Il a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens, de grandes compétences et d'extrême loyauté à la nation. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse. Un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix.
Officiellement, Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre, était parti le 2 mai dernier pour un contrôle en France malgré la fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus. Il avait finalement dû se faire poser un stent en France, mais assuré être de retour en forme alors que son absence prolongée avait mis le feu aux réseaux sociaux. Retour sur le décès d'Amadou Gon Coulibaly dans Afrique Soir tout à l'heure, 22h30, temps universel, présenté par Zéphirin. Dans l'actualité, par ailleurs, les États-Unis ont franchi ce mercredi la barre des 3 millions de nouveaux cas liés au coronavirus. Et ce, au lendemain de l'annonce officielle du retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, la première puissance économique mondiale est donc de loin la plus touchée par la pandémie, autant en nombre de cas qu'en nombre de morts. Toujours aux États-Unis, les universités d'Harvard et de MIT attaquent l'administration américaine en justice. Ces deux universités contestent la décision prise par le département de la sécurité intérieure, département qui veut interdire de séjour aux États-Unis les étrangers. Les précisions à Washington, Anne Corpé.
L'ordre est tombé sans préavis, sa cruauté n'est surpassée que par son imprudence, écrit le président de Harvard dans un communiqué. Et Larry Baco ajoute, nous pensons que c'est une mauvaise politique publique et nous pensons qu'elle est illégale. La directive du département de la sécurité intérieure qui menace les étudiants étrangers d'expulsion si l'établissement qu'ils fréquentent ne propose qu'un enseignement à distance est tombée quelques heures après qu'Harvard a annoncé que tous ces cours seraient dispensés de manière virtuelle à la rentrée. Hier, le président a qualifié cette décision de ridicule. Les avocats des deux universités qui attaquent l'administration en justice écrivent dans leur plainte que la décision du gouvernement est arbitraire et capricieuse. Ils dénoncent un passage en force en dépit des risques sanitaires encourus par les élèves et les professeurs et demandent au tribunal d'empêcher l'entrée en vigueur de la directive. À L2, l'université de Harvard et du MIT compte près de 9000 étudiants étrangers sur plus d'un million à travers le pays. Anne Corpé, Washington. RFI
à Paris où il est 22h05, l'actualité européenne à présent, 30 milliards de livres sterling, soit l'équivalent de 33 milliards d'euros. C'est la somme d'argent annoncée aujourd'hui par le ministre des Finances britannique pour dynamiser, relancer l'économie du Royaume-Uni suite à cette crise du coronavirus. Alors, parmi les principales annonces, le ministre a promis une baisse de la TVA pour certains secteurs, mais aussi des subventions pour la rénovation des bâtiments, ainsi que des aides pour les jeunes. Muriel Delcroix nous appelle de Londres.
Rishi Sunak dit vouloir centrer ses mesures de relance sur le retour à l'emploi et la lutte contre le chômage des jeunes. Devant les députés, le ministre des Finances a ainsi expliqué que les entreprises percevraient une subvention de 1 000 euros pour chaque salarié repris à l'expiration en octobre du régime de chômage partiel, dont bénéficient actuellement plus de 9 millions d'employés. Rishi Sunak a également annoncé 2 milliards afin de subventionner des milliers de contrats de 6 mois de travail qualifié pour les jeunes de moins de 25 ans. Parmi les autres mesures, 3 milliards seront dégagés pour améliorer l'efficacité thermique des logements. Pour soutenir l'hôtellerie et le tourisme, la TVA sera ramenée de 20 à 5% pendant 6 mois. Et pour inciter les Britanniques à sortir, le gouvernement paiera la moitié des repas pris dans les restaurants du lundi au mercredi pendant le mois d'août. Ce plan a été salué par les milieux économiques qui préviennent néanmoins que le gouvernement devra aller beaucoup plus loin alors que la pandémie a provoqué une contraction historique de 25% de l'économie britannique. Même constat du côté de l'opposition travailliste qui demande l'extension du régime de chômage partiel et accuse le gouvernement de Boris Johnson d'avoir aggravé la crise économique par sa gestion calamiteuse de l'épidémie. Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Au Vatican, le pape François dénonce aujourd'hui l'enfer des camps de détention pour migrants qui se trouvent en Libye. Le pape argentin a célébré ce mercredi une messe en mémoire de ceux et celles qui risquent leur vie pour rejoindre l'Europe. La correspondance d'Éric Senanque.
Le souverain pontife tenait à marquer cet anniversaire où le 8 juillet 2013, depuis la petite île italienne du sud de l'Europe, il avait exhorté le monde à ne pas rester indifférent à la tragédie des migrants en mer Méditerranée. Dans son homélie, le pape François a rappelé combien le destin de ces personnes était encore bien sombre, ceux en particulier qui quittent les côtes libyennes.
Je pense à la Libye, aux camps de détention, aux abus et aux violences dont sont victimes les migrants. Je pense au voyage de l'espérance, au sauvetage et au refoulement.
Derrière chaque étranger, il y a le visage de Jésus, encore souligné le pape dans son homélie. François, qui parlant de la situation en Libye, a dénoncé une exploitation des migrants et tenté de réveiller les consciences.
On nous présente une version édulcorée de la réalité. La guerre, oui, est mauvaise, nous le savons, mais vous n'imaginez pas l'enfer qui se vit là-bas, dans ces camps de détention, pour ces personnes qui voulaient seulement traverser la mer avec espoir.
Alors que la crise migratoire est loin d'être réglée, le pape a rappelé l'un des axes forts de son pontificat. Seule la fraternité permet de construire sereinement un avenir. Éric Senanque, Rome, RFI.
En France, nouvelle journée chargée pour un gouvernement tout neuf cet après-midi. Le Premier ministre devant les députés, puis devant les sénateurs. Jean Castex de plein pied dans l'arène politique française. Le nouveau chef de l'exécutif a notamment défendu la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Il estime que refuser de parler des retraites en France serait irresponsable. Mais avant cela, il a été accueilli par Richard Ferrand. C'est un sujet d'Anne Souhaitement.
Je souhaite la bienvenue dans notre hémicycle au Premier ministre.
C'est un baptême du feu pour Jean Castex.
Je voudrais d'abord vous dire toute l'émotion que je ressens m'exprimant pour la première fois devant vous.
Un Premier ministre qui subit dès les premières minutes les assauts de l'opposition, de droite comme de gauche, Valérie Rabault, patronne des socialistes.
Pensez-vous que ce nouveau chemin soit compatible avec le maintien de la réforme des retraites ?
Une réforme à mener à terme, selon Jean Castex, qui prend son temps pour répondre.
Pour les retraites, il a d'ores et déjà été acté que nous distinguerions les concertations à reprendre sur la réforme de fond à laquelle nous ne renoncerons pas.
Un style immédiatement raillé dans les rangs de l'opposition. Jean-Luc Mélenchon n'y va pas de main morte, évoquant son ennui face à un ouragan de banalité. Beaucoup moins d'agacement de la part du meneur de la France insoumise face au début d'un autre néophyte, le garde des Sceaux, avocat Éric Dupond-Moretti, pourtant déstabilisé par ses premiers pas dans l'arène politique.
Non, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première.
Une séance rythmée par les appels du président, Richard Ferrand a cessé le brouhaha.
S'il vous plaît. Un sujet signé Anne Souhaitemont. C'est la fin de ce journal en français facile, réalisé ce soir par Claude Battista. Vous pouvez le lire, voire le réécouter quand vous voulez sur notre site internet rfi.fr. Bonne soirée à toutes et à tous.